Enseignement et Lectio Divina du frère Philippe Jaillot, dominicain aumônier national des équipes du Rosaire, à Lisieux le 22 mars 2026, à l'occasion du Conseil national des équipes du Rosaire.
Pouvoir continuer cette journée, je vous propose, c'est une... en quelque sorte une lectio divina dans laquelle nous entrons. Je voudrais nous faire entrer dans la parole de Dieu avec ce psaume 1 que nous avons lu hier, que vous avez peut-être lu et relu, puisqu'il est sur la première page aussi du livret. Et je voudrais d'abord entrer dans la parole de Dieu pour entrer dans la parole de Dieu, mais finalement y trouver des perles, des fruits pour pour mieux comprendre notre participation aux équipes du Rosaire, ce qui nous unit et ce qui nous rend, j'ai envie de dire, ce qui nous rend enthousiastes et plein d'espérance. Nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il me rende clair dans ma parole et qu'il nous rende tous attentifs à l'écouter. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu. Il donnera du fruit en sa saison. Cette phrase est tirée donc du psaume 1. Elle est la ligne de fond de ce Conseil national pour exprimer que nous voulons parler d'avenir, de devenir, de vocation, de prospective, de fécondité. Cette phrase, nous pourrons l'appliquer à nous-mêmes, dans notre vie, chacun personnellement, mais aussi à notre engagement, à notre mouvement et à toute réalité de notre vie chrétienne, paroisse, communauté et notre Église elle-même. Je vous propose de nous plonger dans l'ensemble du psaume, prendre la peine d'une lecture méditée de ce psaume au cœur duquel se trouve ce message d'espérance qui nous mobilisera. Il portera du fruit, il donnera du fruit en sa saison. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Celui-là portera fruit en son temps, en sa saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait, il le mènera à bien. Ce n'est pas la même chose pour les impies, car plutôt ils sont comme de la paille que dissipe le souffle du vent. Aussi, les impies ne se lèveront pas lors du jugement, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, et le chemin des impies va s'effondrer comme dans un gouffre. Je vous propose d'entrer en douceur, si je puis dire, dans ce psaume par l'image qui est en dessous du psaume que nous avons lu, page 34. C'est une enluminure d'un psautier anglo-catalan. J'étais surpris de cette image que je trouvais assez moderne par certains côtés. Cette image donne une illustration du chemin du juste et du chemin de l'impie. Ici, le juste est valorisé, honoré et représenté dans le calme. L'impie, lui, est conduit à sa perte sans avenir et représenté dans une agitation écrasante. en haut, à gauche. Jésus, on reconnaît avec cette auréole, avec la croix. Jésus est assis sur un trône de sagesse, associé à une ville. Est-ce la Jérusalem céleste ? Ce lieu du paradis, il est entouré de deux anges. Il tient un stylet dans la main pour instruire. En haut, au milieu, donc l'image qui est au milieu, sur la partie haute, vous avez le ciel et la lune qui sont représentés, le soleil et la lune, pardon, qui sont représentés sur fond de ciel. C'est le passage du temps. Sous cette évocation du temps qui passe, Jésus se tient debout et il est dans une attitude de marche. De sa main droite, le Christ montre du doigt la scène où lui-même, le Christ, enseigne la loi, la première image. De la main gauche, il tire à lui le personnage qui semblerait se poser la question de ce qu'il doit faire. Un personnage qui a une attitude de quel côté va-t-il ? Comme si presque dansant. Ce personnage que Jésus attire à lui, à sa main gauche vers Jésus, et sa droite qui s'en va vers la troisième image. Il est dans un entre-deux, tiraillé. La troisième image vers laquelle le personnage tend la main est le chemin des méchants. Le début de leur chemin, pourrait-on dire. Selon la traduction latine du psaume qui est derrière cette image, qui est avec cette image, c'est un chemin des pécheurs et un siège de pestilence, si l'on traduit une chaire de pestilence. Cathedra pestilentiae. Cette chaire de pestilence est représentée par un personnage qui ressemble à un roi et à qui l'on fait des honneurs. Des gens lui offrent des cadeaux. On a l'impression d'un groupe qui se met bien avec lui. Mais on pense à cette forme de compromission. Mais de l'autre côté, il y a un petit démon qui vient lui parler, lui donner des conseils, l'influencer. En dessous, sur l'image du bas, nous voyons un personnage qui tient une cruche, tout à gauche, une cruche qu'il verse, il en sort une rivière, telle qui parcourt tout le bas de l'image. Ce fleuve coule près d'un arbre fruitier, vous voyez à la gauche, un arbre aux fruits étonnants. Au centre de cette image, une grande tête souffle vers le haut, au centre, en dessous de la colonne bleue. Il souffle comme dans un tube. Cela symbolise l'expulsion des impies qui sont comme de la poussière, de la paille que dissipe le vent. Et nous les voyons à côté, tout à droite, un groupe de personnages est emporté par de grands démons vers un gouffre représenté par une gueule grande ouverte. Nous voyons des hommes nus, tout perdus, tomber dans la bouche de ce gouffre, une bouche des enfers. Le chemin des impies va s'effondrer, comme dans un gouffre. Voilà, c'est pour nous mettre en condition pour aller plus loin dans le psaume, mais j'aime assez bien regarder des images qui commentent des images, commentent à leur façon ou illustrent la parole de Dieu. Allons au fil du psaume. Au verset 1. Dès qu'on entre dans le psaume 1, et donc dans le psautier, c'est le porche d'entrée du psaume. Dès qu'on entre dans le psaume 1 et dans le psautier, le psaume vient nous chercher. Le bonheur, où est-il ? Oui, quelque chose est visé, le bonheur. Où est l'homme heureux ? Qui est l'homme heureux ? Comment est l'homme heureux? Le mot bonheur vient dès le début, mais aussi c'est le mot homme qui résonne avec éclat. Le mot Dieu n'est pas premier dans le livre des psaumes. L'homme est ce qu'il vise, le bonheur arrive en premier comme un programme annoncé. En tête du psautier aussi, le psaume 1 nous montre deux hommes, deux personnages, on vient de les voir dans l'image, on vient de saisir deux types de personnages, le juste et les impies. Du reste, on voit le juste est au singulier et les impies sont au pluriel. Il y a une manière d'être juste, même s'il y a différentes façons de poser ça, mais il y a une justice, une justesse. Tandis que il n'y a pas d'unité dans l'impiété, ça va dans tous les sens. On pourrait tirer ça. Alors, regardons comment est présenté le juste. J'ai envie de vous faire travailler un petit peu. Dans ce premier verset, que constatez-vous dans cette première strophe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux sur « heureux l'homme » Cet homme heureux, comment est-il présenté? Rien que dans la manière dont c'est écrit. Marcheur négatif, c'est pas la négative. C'est ça que je voulais obtenir. Marcheur aussi, c'est intéressant d'ailleurs. Alors, effectivement, il est décrit par la négative. Il n'a pas. Cette formulation négative vous fait penser à quoi? Pardon? Au commandement, effectivement. D'emblée, nous entendons la place de la loi dans la vie du juste. La loi va aider le juste à être heureux. La loi du Seigneur, comme les commandements qui font partie de cette loi du Seigneur. Donc déjà rien que par la manière dont c'est traité, on a l'idée de l'importance de la loi dans la vie de l'homme juste. Donc la loi au sens large, les commandements, elle est la parole de Dieu, ce par quoi Dieu nous fait vient à nous et nous fait savoir ce qui est important pour nous. Mais cette formulation négative peut rappeler aussi autre chose. Peut-être que ça ne vous viendra pas de la même façon, aussi spontanément. Pardon ?
Le nom d'Ève, quand elle transgression, dans la Genèse.
Le nom, N-O-N, de Ève. La transgression, alors, j'allais dire, mais formellement, la négation, on va l'utiliser, elle est utilisée pour les commandements. Il y a un autre moment où dans la vie spirituelle, ça part du non. Comment ? Alors, non, alors c'est dans l'autre sens que c'est le combat spirituel. Le mécanisme du combat spirituel, il est ainsi. Ça commence en général par « je ne dois pas faire ceci ou cela »,« je ne veux pas faire ceci ou cela ». Je ne dois pas m'arrêter dans ma lancée. Et puis ça évolue vers des injonctions de ce type. Je dois aller jusqu'au bout de ce que j'ai décidé. Dans le combat spirituel, on va essayer de dire mais comment je me mobilise. Et déjà, c'est que ça, non, ça, non, ça, non. Et j'ai un combat pour ne pas aller ici ou là. Et puis après, ce combat, il devient plus positif et c'est heureux. Je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je veux et je parle en termes positifs.
Sur le premier
instant,
vous n'avez pas pensé que c'était au passé.
Je n'ai pas pensé que c'était au passé, c'est-à-dire
il n'a point marché.
Oui.
C'est pas il ne marche pas.
Oui. Et vous en tirez quoi?
Alors, je redis quelque chose qu'on m'a dit. La mort fixe notre chemin.
La mort fixe notre chemin. Alors, le psaume 1 laisse entendre que l'on doit entrer chacun, au fond de soi-même, dans le combat spirituel. Chacun personnellement, mais aussi à l'échelle de notre mouvement. Il y a un combat pour la vie. Un combat contre la désespérance qu'il nous revient d'assumer. Nous constatons ensuite que cet homme heureux n'est pas un homme retiré du monde. Le psalmiste ne dit pas « heureux l'homme qui ne rencontre pas l'impie ». Mais il dit « heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur leur chemin ». La route du juste semble obligatoirement croiser celle des transgresseurs et des impies, mais elle ne s'y arrête pas. C'est bien la réalité du chrétien qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Le juste ou le croyant est face à de la résistance. Nous le savons, je le disais dans l'homélie d'entrée de ce Conseil national. Nous sommes face à de l'adversité, mais nous ne sommes pas arrêtés. Il ne se laisse pas arrêter, il ne s'arrête pas lui-même. Notons bien une chose. La menace est posée par un effet d'entraînement. Je ne sais pas si vous repérez dans ce psaume, maintenant regardez dans les verbes, qu'est-ce qu'ils évoquent. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de marcher. Pardon. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Ce sont des positions, trois positions, effectivement. On commence à marcher sur le mauvais chemin, mauvais conseil. Vous connaissez l'expression, hein, on file un mauvais coton. On se laisse influencer. Et puis, on s'arrête. Et puis, on s'installe, on s'assoit. Alors cela devient très difficile de repartir correctement, car la passivité nous écrase. L'image me venait avec cette espèce d'effet d'entraînement, la manière dont on peut se laisser entraîner là où on n'aurait pas voulu aller peut-être, mais je me disais, ça me fait penser à imaginer dans une ville où une famille arrive et puis l'enfant va aller à l'école, puis on a dit aux parents, attention, vous habitez là, pour aller à l'école il va être obligé de passer à côté de cette rue, c'est mal famé, c'est pas bon, faites attention. Donc les parents disent, hein, tu vas à l'école, tu vas tout droit, tu ne vas pas dans ce quartier là, c'est pas bon. Bon, on a pu faire ça, enfin, quand il y a des proches, des enfants. Et ben, l'enfant, il va à l'école, le premier jour il va droit, hein, il suit comme les parents ont dit. Et puis, quand il revient le soir, il se dit, c'est là qu'il ne faut pas aller. Le lendemain, quand il revient de l'école, il se dit quand même, c'est bizarre, pourquoi il ne faut pas y aller. Donc il entre un peu dedans, donc il va marcher dedans. Vous savez, comme on a un petit peu peur, là, donc on marche un peu vite. Et puis il est ressorti, il a marché dedans, c'est tout, puis il retourne. Puis le lendemain il dit, c'était quand même pas terrible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps, il s'arrête devant les boutiques un peu glauques, devant les établissements plutôt pas très heureux et tout ça. Ça fait de l'adrénaline, puis il repart. Et puis le lendemain, il se dit quand même, c'était intéressant, hein. Puis il y va, et puis il entre, et puis il s'assoit dans le bar le plus glauque de la ville, ou je sais pas trop quoi. Et c'était un peu cette idée, j'y vais, au début, non, je vais pas trop loin, et finalement, je finis par m'installer, et je ressors difficilement. Une fois que je suis assis, je suis installé. Je ne ressens pas. Ces positions dans le psaume me donnent à penser à une sorte de, un peu ce mécanisme dans lequel on peut aller là où on ne veut pas aller, où on ne devrait pas aller. Nous reconnaissons ici la fragilité de notre vie de disciple. On risque de changer de chemin. Vous savez, je pense à l'évangile de Saint Jean, dans toute la première partie de l'évangile selon Saint Jean, jusqu'au chapitre 12, on parle du temps du choix. On voit les disciples suivent Jésus, et puis à un moment ils s'arrêtent de le suivre, ils réagissent contre lui, et puis ils s'en vont, ils prennent le chemin inverse. On a, à un moment, on risque de glisser là où ailleurs, de là où on devrait aller, où on voulait peut-être aller au départ. Saint Jérôme, parlant de ce passage, dit « Nous devons étudier la gradation. A marché, s'est arrêté et s'est assis. L'homme a en effet marché quand il a tourné le dos à Dieu, dit-il. Il s'est arrêté quand il a pris plaisir au péché. Et il s'est assis quand, endurci par son propre orgueil, il a été incapable de retracer ses pas, de reprendre le chemin. Sans que celui, avec un grand C, sans que celui qui n'a pas marché selon le conseil des méchants, ni ne s'est arrêté sur la voie des pécheurs, ni ne s'est assis sur le siège de la pestilence, ne soit venu pour le délivrer. » Alors, cependant, je note qu'il a beau parler du Christ qui dit-il, n'a pas marché selon le conseil des méchants, oui, ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs, peut-être pas, ne s'est pas assis sur le siège de la pestilence. Je me prends à regarder Jésus dans l'Évangile. Lui, il va au-devant des pécheurs, lui, il s'assoit avec eux à table, mais pour en faire sortir du bien. Il y a cet effet d'entraînement, on pourrait le prendre aussi au sens positif, ne pas glisser vers le mal, en revanche, on peut glisser vers le bien, pour pouvoir s'asseoir dans le bien. Je me disais que les équipes du Rosaire, c'est bien ça qui se produit. Nous venons, nous rencontrons quelqu'un, nous arrêtons, nous parlons, l'effet missionnaire des équipes, et puis vient t'asseoir sur la fameuse chaise du prochain, par exemple. On peut entendre cet effet négatif ici, le traiter de manière positive, c'est bien ce qui se passe aux équipes du Rosaire ou dans d'autres mouvements d'ailleurs.
Il me semble que c'est le mot même mouvement en fait, c'est-à-dire on prend un risque quand on est parti, un risque de tomber, un risque. Mais si dès le départ on ne bouge pas, de toute façon on va nulle part. Je pense que le mot mouvement en lui-même implique le risque qu'on prend à éventuellement tomber ou prendre le mauvais chemin.
C'est vrai, le mot mouvement évoque notamment ça, c'est pas quelque chose de statique, de figé, il y a un risque. Comme une marche, hein. La marche, elle ne fonctionne que parce que vous êtes à un moment en déséquilibre. Quand vous levez une jambe pour la poser, en fait, il y a un moment où on est en train de tomber. Bon, là, quand on apprend à marcher, on apprend à gérer ça. Mais c'est bien ça, le mouvement, c'est se lancer, prendre un risque. Verset 2. Si la négative du verset 1, c'est-à-dire... l'idée un peu de la loi et des commandements, ne pas, tu ne pas, nous aide. On voit au verset 2 que la puissance sera dans l'objectif, le désir, le plaisir bien calé. Là, on est dans du positif. Les choses sont dites au positif. Il est dit, mais plutôt, la loi du Seigneur est son plaisir. Le psaume montre concrètement comment on reconnaît son plaisir à vivre de la parole de Dieu, la loi. L'homme heureux, qui se révèle comme l'homme juste, est plongé dans la loi. J'ai envie de dire, il y est comme un poisson dans l'eau. Il est bien dans ce bain-là. Nous pourrions d'ailleurs nous demander si nous allons prier, si nous lisons l'Écriture sainte, ou encore si nous célébrons la messe, comme pour nous baigner dans un bain où on est bien. Parfois on peut s'ennuyer un petit peu, hein. Parfois on peut avoir envie de s'arrêter très vite. Là on a l'idée de l'homme juste finit par trouver comment se sentir bien, il se sent bien plongé dans la loi. Et l'autre signe du bonheur, c'est que l'homme heureux fredonne le chant de la loi. C'est sur ses lèvres, comme si ça vient de son cœur et ça monte à ses lèvres. Ça me faisait penser à Jésus disant « Si votre justice ne déborde pas davantage que celle des scribes et des pharisiens. » L'idée est de laisser déborder notre relation à la loi, qu'elle sorte comme un chant sur nos lèvres et signe que l'on est dans cette ligne-là.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le trop peu, finalement, la loi déborde comme quelque chose qui va être bénéfique et positif. Cette image visuelle, la parole qu'on fredonne, et pour moi le mot fredonner renvoie une forme de joie, me fait penser à cette exhortation de saint Paul, 1 Thessaloniciens 5:17, c'est-à-dire qu'on pense à un effet permanent, incessant, « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. » Ou encore, 1 Corinthiens 10:31, « Faites tout pour la gloire de Dieu, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et même au temps du sommeil. » Ce verset du psaume 1 reprend ce que Dieu demanda à Josué avant qu'il entre en terre promise. « Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. » Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et tu réussiras. Que le livre de cette loi soit toujours sous tes lèvres. Qu'est-ce que murmurer, qu'est-ce que fredonner ou murmurer? C'est plus que chuchoter et ruminer. Aux temps anciens d'Israël et plus largement dans l'Antiquité, on lisait à voix haute. Il n'y avait pas vraiment de lecture mentale. Le corps, le sensible de la lecture, soutenait la contemplation de la parole de Dieu. Ainsi, la contemplation était ce qu'elle devait être, sans cesse, en quelque sorte jour et nuit. Dans la lecture mentale, il y a quelque chose qui s'arrête un peu sans qu'on s'en rende compte. Quand on se tient dans une sorte de sans cesse, quand le corps est immobilisé sans cesse, vous allez me dire ça fatigue peut-être, mais en même temps, il y a une sorte de contrôle qui est peut-être plus grand. On sait quand on s'arrête, d'une certaine façon. Et cette méditation est appelée à donner une piété extérieure. Elle pourra conduire à une manière d'être, de vivre et d'agir selon ce que l'on murmure. Une sorte de prolongement de cette loi qui murmure en nous, qu'on murmure, et la façon d'agir. Je pense à Anne, la mère de Samuel, qui est un exemple de quelqu'un qui murmure la loi du Seigneur. 1 Samuel, premier chapitre, 1 Samuel 1:12-13. Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie, le prêtre, observait sa bouche. Anne parlait tout bas, ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. On lisait aussi à haute voix dans les premiers temps de l'Église, ou alors quelqu'un lisait pour vous, un proche ou un serviteur. On savait de grands pans de l'Écriture et on se les disait à haute voix. C'est quelque chose qu'il est bien de faire, d'apprendre des passages de l'Écriture et puis de se les dire quand on marche en forêt, je ne sais pas. Dans le livre des Confessions de saint Augustin, on trouve un étonnement d'Augustin. Il va remarquer un jour que saint Ambroise, qu'il admire, a la Bible ouverte devant lui. Il aperçoit que ses lèvres bougent, mais il n'entend rien. C'est là une méditation de la Bible, l'Écriture murmurée. Les moines et les moniales qui récitent et chantent les psaumes, cela nous renvoie à une réalité semblable, faire tourner la parole de Dieu sans cesse sur ses lèvres. Il y a ici l'idée que nous assimilons la parole de Dieu dans la durée. Il faut la laisser passer sur nos lèvres et dans notre cœur au fil du temps. Nous ne l'assimilons pas de façon immédiate. Faire tourner la parole de Dieu sur nos lèvres, la murmurer, la dire régulièrement, la dire sans cesse, c'est se tenir dans une disponibilité plus grande pour recevoir ce que Dieu nous donne. Et nous le verrons juste après, ce que Dieu nous donne. C'est un travail qui façonne notre fécondité. Et je me suis dit qu'il y a cela dans l'expérience des équipes du Rosaire. Méditer la parole de Dieu de façon de façon perceptible, de façon audible. L'atelier des aumôniers diocésains hier disait que les équipes du rosaire aident à faire grandir la culture de la rencontre. Mais inversement, cette culture de la rencontre, les rencontres mensuelles, mais aussi le quotidien personnellement avec la prière chaque jour, aide à faire grandir la fréquentation de la parole de Dieu. Et en conséquence, notre vitalité spirituelle et notre fécondité humaine et missionnaire grandissent. C'est une forme de murmure que les équipes du rosaire font entrer dans une forme de murmure, d'expérience, de fredonner la parole de Dieu seul et à plusieurs. Ça nous façonne. Cela façonnera notre fécondité. Verset 3. L'homme juste, heureux, reçoit de l'eau depuis les canaux d'irrigation. Cela signifie que ces canaux sont bien voulus par celui qui les a construits et organisés. Ce ne sont pas des ruisseaux comme ça. Il semble que le terme renvoie à des canaux d'irrigation. Ce ne sont pas des rivières naturelles, ce sont des canaux organisés qui est évoqué ici. Alors nous nous posons la question, qui a pu poser des canaux d'irrigation ? Nous pensons bien que cela vient de Dieu. Et que représentent ces canaux ? Nous pensons à la grâce. La grâce de Dieu n'est pas là par hasard. Elle n'échappe pas de Dieu sans qu'il le veuille. Il y a une volonté de Dieu. Chacun de nous, quand il cherche la justesse par sa familiarité avec la parole de Dieu, vit de la grâce. Et à une autre échelle, celle de notre mouvement des équipes, vit aussi de la grâce par sa fréquentation de la parole de Dieu, par la place que la parole de Dieu tient dans la vie du mouvement. Il y a alors un effet, un résultat. Grâce à ces canaux, il y a du fruit. L'homme heureux peut redonner, il peut donner, il peut transmettre. Il y a une fécondité. L'homme juste est présenté comme un arbre. Et l'arbre donne des fruits en sa saison. J'ai retenu ce mot de saison dans la traduction qu'on trouve dans certaines traductions. L'idée de saison me fait penser à des périodes qui se suivent. L'image de l'arbre et des fruits se retrouve ailleurs dans la Bible et laisse penser les saisons, on a souvent en tête, il donne du fruit en son temps, il donne du fruit en sa saison ou en chacune de ses saisons, en toute saison. C'est comme ça que je l'ai entendu. Au livre d'Ézéchiel, chapitre 47, lorsqu'il est question de l'eau qui jaillit du temple comme un torrent, on peut lire un résultat. Chapitre 47, verset 12. Au bord du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Ou encore, dans un autre psaume, le psaume 92, verset 13 et suivant, le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Planté dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils portent fruit, ils restent frais et florissants. Dans la vieillesse encore, en cette saison de la vieillesse. Il reste frais et florissant pour publier que le Seigneur est droit, mon rocher, en lui rien de faux, pour publier, pour annoncer, mission à accomplir, de dire les choses. Nous parlerions d'évangélisation. La vie de chaque être humain se lit comme une succession de saisons. Et l'on peut aussi dire cela de 70 ans d'un mouvement comme les équipes, ou encore de la vie de l'Église, de l'histoire de notre christianisme. Chaque saison a ses fruits. Et dans la vie de l'Église, chaque période a donné ses figures de saints, ceux qui ont apporté quelque chose qui répondait à une urgence, à un besoin. C'est bien là un effet de la grâce de Dieu. Il y a les saints connus. J'en ai dessiné quelques-uns ici sur cette page de couverture dans les médaillons. Et puis il y a les saints que nous sommes appelés à devenir. Il y a des figures qui marquent, sans qu'elles soient canonisées, parmi nous-mêmes. Et parlons du Père Équem, par exemple, mais d'autres figures qui finalement sont des fruits à une saison ou une autre de l'Église. Mais une autre interprétation me vient aussi dans cette expression « en sa saison ». Cela me fait penser que l'homme doit accepter que sa vie a des saisons. Nous pouvons vouloir faire et vivre tout et n'importe quoi à tout moment. Mais l'arbre des fruits donne des fruits en sa saison, des fruits différents selon la saison où il produit. Il est important d'intégrer la saison, nos saisons. Nous sommes dans la loi de Dieu, dans son économie, sa manière de faire vivre ce monde et de soutenir chacune de nos vies, la vie de nos mouvements, la vie de notre Église, la vie de notre monde. Il est important de ne pas se mettre dans l'impatience et la frustration qui viennent du tout de suite. Je me voudrais capable de donner, réussir, faire le bien, et cela tout de suite et tout le temps. Mais il y a des temps, des saisons. Par exemple, dans la vie religieuse, le temps du noviciat, on ne fait pas encore des choses au noviciat qu'on fera plus tard, quand on aura 15 ans de vie religieuse. Il y a le temps de la vieillesse, on ne fait plus les mêmes choses quand on a 80 ans dans la vie religieuse que l'on faisait quand on était frère étudiant. Il y a le temps des fiançailles dans la vie des familles, il y a le temps du mariage, il y a le temps du veuvage. Il y a le temps des débuts professionnels, le temps des jeunes mariés, le temps de la vieillesse, le temps de la maturité, le temps pour laisser la place à d'autres. Tout cela est important dans la vie spirituelle, de ne pas chercher à faire dans la saison où on est ce que l'on pouvait faire dans une autre saison ou ce que l'on pourra faire seulement après, dans une saison qui suivra. Faire attention à cette impatience ou cette frustration. Impatience de ne pas encore pouvoir faire, frustration de ne plus pouvoir faire. Cela nous donne d'ailleurs une lecture de notre vie et de l'exercice de nos responsabilités. Vous êtes tous des responsables ici, ou nous sommes tous dans une responsabilité pastorale, de quelque façon qu'elle soit, et nous rendons compte qu'il y a des choses, il faut attendre pour nous-mêmes notre capacité, mais aussi la capacité d'ailleurs des autres à recevoir. L'homme peut vouloir faire et vivre tout et n'importe quoi à tout moment, mais il n'y parvient pas. Il y a des saisons et des âges de la vie. Donc l'homme heureux dépasse la frustration. Cela peut nous conduire à une réflexion aussi sur le rapport à l'écologie, donc le rapport aux âges de la vie, la manière de vieillir, d'accompagner notre vieillissement, qui commence très jeune d'ailleurs, hein. Chaque jour un jour de plus. Mais aussi l'idée du transhumanisme, faire un lobe augmenté. J'entendais dans une conversation qu'on parle bientôt, il y aura des enfants augmentés. Je ne sais plus qui disait ça. On est en train de faire naître les enfants augmentés. À l'échelle de notre mouvement, en sa saison, laisse entendre qu'il faut lire les différents contextes que les équipes du Rosaire ont traversés. Quel était le contexte du Père Ekem ? Quel est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Je l'évoquais déjà hier. Comment ce contexte a-t-il évolué ? Il faut accepter de reconnaître les changements et les évolutions. Il faut les décrypter. Qui, le Père Ekem et Colette Couvreur, pouvaient-ils chercher à rejoindre dans les débuts des équipes ? Et qui, aujourd'hui, nous verrions-nous rejoindre ? Je ne sais pas si on aura le temps. Si j'ai le temps, je laisserai le frère Yves François nous évoquer ce regard sur cette question. Je sais qu'il a une vraie réflexion là-dessus. S'il ne peut pas le faire aujourd'hui, peut-être qu'il nous fera un petit mémo de ça, de sa façon de voir dans les équipes l'évolution du contexte. Je termine sur le psaume, on verra ce qui sera possible aujourd'hui ou alors plus tard. En tout cas, dire que le juste ou l'homme heureux, l'homme non frustré, donne du fruit en sa saison ou selon sa saison, selon la saison dans laquelle il est, cela signifie qu'il restera jeune. Si on est, je veux dire, obéissant à l'événement, si on est accueillant au temps où on est, à la saison dans laquelle on se trouve, on reste jeune, puisqu'on est conforme à ce qu'on est en mesure de donner, ce qu'on est appelé même à donner. Il restera jeune, il ne se fanera pas, mais peut-être pas de la façon qu'il déciderait lui-même, effectivement. Sur l'illustration du livret que j'ai faite, il y a des fruits différents et des feuilles de différentes couleurs, elles aussi. Fruits et feuilles gardent de l'éclat, mais évoluent. Cela fait partie de notre richesse. Son feuillage ne fanera pas, tout ce qu'il fait le mènera à bien. Eusèbe de Césarée donne une interprétation eschatologique pour la fin des temps, pour notre devenir. Il dit « L'arbre est à la fois le Fils de Dieu, proche des fleuves, c'est-à-dire des saintes écritures qu'il annonce. Et il est le juste qui, toujours attaché à la loi divine, est irrigué par tous les fleuves spirituels. » Donc il est à la fois le Fils de Dieu, proche des fleuves, et il est le juste, toujours attaché à la loi divine, irrigué par tous les fleuves spirituels. Il dit « Son temps est le siècle futur, la vie présente étant le temps de l'agriculture, de la préparation du fruit. » Verset 4, les versets suivants, je vais aller être plus rapide puisque je voulais concentrer un peu sur cette image, notamment de l'arbre. Verset 4, il s'agit à présent, on entre dans la deuxième partie du psaume, il s'agit des impies. D'abord, on en parle en forme affirmative. Ils sont comme la paille. L'affirmatif les situe dans l'idée qu'ils sont dans le rentre-dedans. Ils veulent forcer le destin. Mais le contenu du texte dit qu'ils n'ont pas de consistance, au bout du compte. Nous, on a l'impression qu'il pèse beaucoup sur nous. Le psaume dit « Ceux-là n'ont pas de consistance en réalité. Ils sont comme de la paille qui s'envole et s'évanouit. » Et l'image du psaume, c'est quand même terrible, ce chemin des impies qui termine dans une gueule. Au verset 5, leur devenir est annoncé. Quel est-il ? Ils ne se lèveront pas lors du jugement. Ils seront écrasés par ce qu'ils entendront lors du jugement. Ils ne s'en relèveront pas. Moi, j'ai cette idée du jugement. on développe une sorte, parfois une peur de ce temps du jugement, le jugement personnel à notre mort. Mais il y a une sorte de confiance dans notre vie de foi qui nous fait dire, ben, j'espère qu'effectivement je vais reconnaître celui qui veut me donner le salut, celui qui me conduit à la vie éternelle, j'espère que je vais le reconnaître au moment du jugement, j'espère que je vais savoir recevoir la façon dont il évalue, dont il estime ma vie. J'espère être accueillant à ça. Ici, on a le sentiment que l'impie ne saura pas faire face et il va tomber, il ne pourra pas se tenir debout. Se lever, ça nous fait penser à la résurrection dans la foi chrétienne. C'est un terme qu'on trouve dans l'Évangile pour parler de la résurrection. Ils ne connaîtront pas ce que la résurrection apporte comme bonheur. Et ils ne connaîtront pas le bonheur d'être assemblés, unis au juste. Au verset 6, le Seigneur connaît le chemin des justes. Et comme il les irrigue de sa parole, l'homme juste le connaîtra aussi avec Dieu, par instinct, par connivence. Parce que je suis pétri de la parole de Dieu, parce que je vis de sa grâce, eh bien je suis en connivence avec Dieu qui connaît le chemin des justes, qui montre le chemin des justes. Mais je vais le trouver moi-même par cette connivence à Dieu. C'est quelque chose de cet ordre-là. Les impies chercheront eux aussi un chemin, une destination. On a tous besoin de chercher une destination. Mais ça ne marchera pas, dit le psaume. Il y aura effondrement du chemin devant eux. Ils tomberont comme dans un gouffre. La voie, le chemin, c'est un terme biblique commun qui signifie manière de vivre ou conduite morale comme résultat de la participation de l'homme avec Dieu. On suit le chemin, on suit la voie, on est dans une conduite qui nous mène au bien, ou inversement, on tourne le dos à Dieu. Il existe, très semble-t-il, 66 fois dans le psautier ce terme, pour dire qu'il est bien présent dans le psautier. C'est ouvert avec le psaume 1, ce chemin à suivre, hein, et vous voyez ces positions qui peuvent nous ébranler un peu dans le début. On le trouve 16 fois dans le psaume 118, vous savez, ce long psaume de la parole de Dieu. Le chemin est bien associé à la parole, la façon de vivre de la parole de Dieu. Il est fréquent aussi dans la littérature de la sagesse. Son usage est populaire aussi chez les prophètes. Et puis, Jésus, notre Seigneur Jésus, se présente comme le chemin. Jean 14, 6. Le Nouveau Testament appelle à un choix décisif comme l'Ancien Testament le faisait. Choisis le bien, choisis le mal. Choisis la mort, choisis la vie. Et c'est un choix auquel le Christ lui-même a été soumis lorsqu'il fut poussé au désert par l'Esprit Saint pour y être tenté par le diable. Ce que le carême nous a rappelé au début, comme chaque carême, nous partons sur, attention, les choix. Dans quel combat entrerez-vous ? Pourquoi allez-vous combattre ? Et Jésus est sorti vainqueur de ce choix et des tentations qui allaient avec. Il a ouvert le chemin du salut. Il a vaincu les tentations et nous entraîne donc à sa suite. Il a fait cela pour nous. Par la suite, il se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Et si souvent, dans l'Évangile, et à nous-mêmes, il dit « Suis-moi ». Alors heureux qu'il écoute. voilà ce parcours de verset par verset. Je voudrais faire comme une sorte d'épilogue. Arriver à profiter de la loi de Dieu. Le Dieu personnel et intime, je mets l'intimité derrière l'intimité, cette idée de l'irrigation, ces canaux d'irrigation qui irriguent l'homme juste. Le Dieu personnel et intime est avant tout le Dieu de la parole écrite. L'idée de la parole de Dieu, pour nous, il faut que la parole devienne parole, enfin l'écriture devient parole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous le recevons sur une parole écrite. Malheur à qui voudrait aller plus loin en négligeant cela. C'est-à-dire, par exemple, chercher un Dieu sublime et sidéral, changer Dieu au-delà de ce qu'on reçoit, de ce qui nous est donné dans l'Écriture. Se mettre un surmoi spirituel plus écrasant que ce que Dieu nous donne à accueillir. Être plus catholique que le pape, selon l'expression familière que l'on utilise. En quelque sorte, notre rapport à la parole de Dieu, c'est ni surplus, ni négligence, ni complaisance, ni transformation. Il y a là toute la difficulté à faire évoluer notre mouvement, les équipes, à intégrer les changements de saison, de contexte. On risque de le ramener abusivement à notre mesure. Ça a été dit hier par le groupe des responsables diocésains, de dire ben, si déjà on revenait un peu à des fondamentaux tels qu'ils nous sont donnés, si on était assez attentif à ce qui fonde le mouvement, eh ben, ce serait peut-être quelque chose de très moderne, enfin, qui correspond à aujourd'hui, à notre contexte aujourd'hui, il y a de quoi y trouver quelque chose. Ou alors, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire d'ajouter des choses, de rendre ça plus lourd et plus compliqué. C'est-à-dire, soit il y a négligence, soit j'en fais trop, mais dans les deux cas, je vais dénaturer l'esprit du mouvement. Ce n'est pas l'esprit du mouvement qu'on cherche à mettre en avant, mais c'est la fécondité qu'il peut donner avec ces intuitions-là. Un deuxième point de mon épilogue, le psautier s'ouvre par une béatitude. Bienheureux l'homme qui trouve son plaisir et sa raison de vivre dans la loi et l'écriture sainte. C'est ça qu'on en tirera. La place de ce psaume, elle est à considérer tout à fait intentionnelle. Elle ouvre, je vous l'ai dit, le psautier. Dans le psaume, vous savez, on voit le psaume en plusieurs recueils, cinq recueils qui sont interprétés comme nous rappelant la Torah, la loi du Seigneur avec les cinq livres de la loi. Le psaume, à sa façon, vient comme donner l'élan de la loi, un résumé de la loi. Le psaume 1 ouvre le premier recueil, mais on le situe aussi comme ouvrant le psautier dans son intégralité. Cette béatitude donne le ton à tout le psautier. Elle devient une clé de lecture à ne pas oublier. À l'homme qui veut le lire avec justesse, c'est-à-dire comme un homme juste, le psautier se présente comme une bonne nouvelle. Comment bonne nouvelle? On l'a au tout début de l'évangile selon saint Marc. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Même dans les psaumes où la détresse de l'auteur s'exprimera avec des accents les plus douloureux, il faut se souvenir, c'est comme dans certains opéras, du motif de l'ouverture toujours présent. Notre vie chrétienne cherche le bonheur. Notre participation à un mouvement dans l'Église cherche aussi le bonheur. On ne va pas dans un mouvement pour se faire mal. On va dans un mouvement parce qu'on pense que c'est un bien, que ça nous conduit au bonheur et ça nous aide à conduire au bonheur. Je me souviens quand je suis entré dans la vie, avant d'entrer dans la vie religieuse et au séminaire, le père Yves Sauvant a été a été présent à mes débuts de l'entrée au séminaire, avant de la question des dominicains se posait déjà, mais j'ai hésité. Il a été quelqu'un qui m'a aidé à discerner cela. Et un autre prêtre du diocèse de Nevers, d'où je suis originaire, m'avait dit un critère pour la vocation, c'est est-ce qu'on peut répondre oui à ces deux questions ? Est-ce que cela me rend heureux ? Et est-ce que je rends les autres heureux ? Donc ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, ça me marque encore d'ailleurs. Notre vie chrétienne cherche le bonheur et la participation à un mouvement, donc notre mouvement en particulier, cherche aussi le bonheur. Il est important de réinterroger régulièrement notre motivation et de la réinterroger avec d'autres. Vous avez vu dans les questionnaires, je pense que pour tous, j'avais posé la question de la motivation que nous avions à être dans le mouvement, à y vivre ce qu'on a à y vivre, à agir selon ce qui nous est demandé. Je crois que c'est important de se le redire de temps en temps et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de simplicité et d'honnêteté dans les réponses, plutôt enthousiaste, hein, plutôt dire qu'il y a une vraie motivation, certains disant plus trop. Mais c'est bien de pouvoir se le dire. Parce que peut-être d'abord la motivation peut revenir quand on affronte un moment difficile, la remise en question devant une responsabilité ou l'appartenance à un mouvement, ou même notre vie de croyant, de chrétien. Il est important de réinterroger régulièrement cette motivation, notre motivation, et de la réinterroger avec d'autres. Le Conseil national permet de faire ça et j'ai trouvé que ça avait l'air de faire gonfler, de montrer une joie de vivre ce qu'on vit. Merci à vous de donner ce témoignage-là, en tout cas dans votre manière d'être. Alors, réinterroger avec d'autres, c'est-à-dire, il y a l'idée de l'équipe qui est importante. L'équipe à laquelle nous faisons partie, l'équipe aussi que nous scellons en tant que responsable ou en tant qu'aumônier dans une concertation avec son binôme ou avec le niveau d'au-dessus ou d'en dessous, diocésain, régional, national peut-être aussi, avec le bureau, avec le conseil, avec des collègues responsables ou aumôniers. Le fait de se retrouver dans un conseil national, c'est aussi de mettre des visages sur les responsables voisins de sa région. On les connaît peut-être un peu, mais peut-être plus loin aussi. Il y a des affinités qui peuvent se faire, des situations que l'on voit assez proches et on a envie de pouvoir être soutenu par quelqu'un qui vit les mêmes choses. C'est l'idée que je me fais, en tout cas, de l'équipe. L'équipage dans lequel on est. Je vous invite à lire la page sur l'équipe. Un troisième point de cet épilogue, le dernier. Saint Jérôme compare le psautier à un immense édifice et le psaume 1 donc au portail d'entrée. J'ai déjà utilisé cette expression. Mais cette entrée se fait pourtant, j'ai envie de dire, avec un homme simple. Ce n'est pas un super-héros, ce n'est pas un surhomme. C'est un homme banal, ou disons, le plus humain des hommes. Cet homme juste, cet homme heureux. C'est l'homme ordinaire de tous les temps. Tel est le portrait que dessine le psaume 1. Le christianisme, dans la projection que nous donne le psaume 1, apparaît comme la religion la plus humaine de toutes les religions, peut-être. Le psaume 1 invite à lire, à s'imprégner d'un livre, le psautier qui suit. Et plus largement, ce livre qui vient, au commencement, c'est l'écriture. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, dans la parole que Dieu donne, dans l'écriture qui nous vient. Et par ce livre, nous apprenons à rencontrer le Dieu personnel et intime. Le psaume 1 peut sembler un portail bas de plafond. Il n'est pas de grande mondanité, c'est pas des trucs extraordinaires, c'est pas une vision de l'homme dans la relation à Dieu, une espèce de truc hyper prestigieux. J'ai envie de dire qu'il faut se courber et abandonner des richesses qui nous alourdissent et des illusions qui ne nous permettent pas de décoller. Oui, heureux l'homme, banal ami de Dieu, ou dit autrement, l'amoureux de sa parole. Et je crois que c'est une spécificité de notre mouvement des équipes du Rosaire, lire l'Écriture sainte, la méditer, la commenter avec beaucoup de simplicité. Dans le week-end, quelqu'un disait, je ne sais plus à quelle réunion c'était, à quelle rencontre c'était, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, je le constate, hein, c'est un grand mouvement où il y a encore du monde, quoi qu'il en soit, très, très effacé, très, très discret, méconnu. De fait, c'est très présent dans la vie des paroisses et des diocèses, hein, vous en rendiez compte les uns et les autres, soit dans les sondages, soit dans les réunions, hein, j'ai entendu notamment celle des aumôniers diocésains. Il y a une espèce de simplicité de la présence de ce mouvement, et plusieurs d'entre vous disaient, ben, c'est avec beaucoup de simplicité que des membres des équipes du Rosaire se retrouvent à être très acteurs dans la vie des paroisses. On s'appuie sur eux dans des paroisses, ça a pu être dit dans les sondages. Certains disaient, à cause de l'âge, ce n'est plus possible, mais enfin... Il y a quand même beaucoup qui disaient, oui, effectivement, il y a un engagement avec une sorte de service simple dans la vie de l'Église. J'allais dire l'Écriture sainte, lire l'Écriture sainte, ça porte cette fécondité dans la vie de l'Église, pour chacun de nous. Alors, cette spécificité de lire l'Écriture sainte, de la méditer, la commenter, je redis, c'est une spécificité peut-être de notre mouvement des équipes du Rosaire. Je ne dis pas que ça ne se fait pas ailleurs, mais en tout cas, ça se fait comme quelque chose de central. Encore hier, il y avait une discussion, peut-être que vous l'avez eu dans les groupes, mais je crois que c'était à table, sur Marie. Où beaucoup vont dire, spécificité du mouvement, c'est Marie. J'allais dire, non, c'est pas spécifique au sens où des mouvements mariales, il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre, en tout cas. Mais c'est la manière dont Marie est dans notre mouvement intimement liée à, comme caisse de résonance de la parole de Dieu, si je puis dire. Nous la lisons avec Marie. Et quelques-uns disaient, il faut changer le nom des équipes du Rosaire. C'est quelque chose de compliqué, mais peut-être qu'inverser le titre et le sous-titre pourrait se penser autrement. En tout cas, vous insistez plus sur le sous-titre, l'Évangile avec Marie. Lire la parole de Dieu avec Marie, c'est ce que nous faisons, au sens où les mystères du Rosaire sont des portes d'entrée sur le salut que nous donne le Christ. Mystère du Rosaire. Rosaire, cette prière où nous en remettons à l'intercession de la Vierge Marie, nous la laissons nous guider dans cette vie du Christ, dans cette œuvre de salut de Dieu en Jésus-Christ. Les mystères du Rosaire sont comme des regards successifs, des approches, des saisons, pour embrasser le grand mystère de notre salut en Jésus-Christ. La Vierge Marie nous fait prendre conscience de la richesse de ce que Dieu fait pour notre vie, pour notre salut. Nous lui demandons de nous faire regarder l'incarnation de Dieu en notre humanité, et c'est par exemple l'Annonciation. Nous lui demandons de nous aider à régler notre manière d'être et d'agir par l'imitation du Christ. Et ce sont les noces de Cana, ou encore l'invitation à reconnaître un appui à notre sainteté dans l'institution de l'Eucharistie. Nous lui demandons de nous aider à affronter la souffrance, et c'est le courage de nous tenir avec elle, proche de la croix. Nous lui demandons de nous tourner vers notre devenir, promesse de vivre de la vie de Dieu. Et c'est par exemple son Assomption qui nous montre que la porte du ciel est bel et bien ouverte à notre humanité. Voilà comment je décris notre mouvement marial et missionnaire, notre mouvement missionnaire et marial. Et ne perdons pas les fils de ce complexe mouvement. Forcément, on insiste plus sur un truc qu'un autre au moment où on pose une question, au moment où on doit y méditer. Mais nous-mêmes, méditons dans notre vie des équipes sur toute cette richesse de vie chrétienne que cela permet.